Ça, c'est quand même pas mal parce que le dernier passage que nous avons lu parlait d'une tout un kyriel d'animaux. Et puis voilà, on va continuer sur ce terrain-là avec par exemple ces trois versets. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Deutéronome. Il, l'Éternel, là, son peuple, trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sous ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple. Et puis, troisième verset, dans Jean au chapitre 10, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Et à propos de ce dernier verset, je peux témoigner par rapport à l'endroit où j'habite, près d'une bergerie, où peut-être une bonne centaine de brebis qui la peuplent avec chaque année une multitude de naissances de petits agneaux. Et chaque soir, les brebis rentrent retrouver leurs agneaux après avoir passé la journée au pré, et alors que les agneaux sont restés dans la bergerie. Et alors, c'est un concert de bêlements qui c'est assourdissant. On entend tous ces bêlements. Et alors, ce qu'on voit, ce qui est quand même remarquable, parce que plusieurs fois, on est allé voir avec les enfants, avec des personnes qui avaient des enfants chez nous qui étaient intéressés à ça, de voir qu'au milieu de tous ces bêlements, les brebis et les agneaux se retrouvent, qui sont fils, qui sont mère, et reconnaissent au milieu de ce vacarme lequel appartient auquel. Et on comprend bien avec cette image que les brebis savent reconnaître évidemment la voix du berger qui a l'habitude de les conduire, qui les conduit, et qu'elles ne suivront pas un étranger. Donc voilà, ces trois versets nous parlent encore d'animaux qui ne sont qu'un maigre échantillon de tous les animaux dont on parle dans la Bible, et qui montrent que Dieu a investi dans ces animaux des qualités qui lui sont propres ou qu'il souhaite voir en nous, comme c'est le cas des brebis. Alors, si vous le voulez bien, on va un peu prolonger cette réflexion par une petite fiction animalière. Dans une école, il y avait quatre animaux. Un aigle, un écureuil, un lièvre et un canard. Et comme ils n'étaient pas assez nombreux, on les a mis dans la même classe. À la discipline d'épreuve de vitesse, de course de vitesse, forcément, le lièvre ne craignait personne. L'écureuil, parfois, arrivait un peu à le concurrencer sur un terrain accidenté et sur de courtes distances, mais à découvert et sur de longues distances, c'était peine perdue. Parce que l'écureuil, lui, son truc, c'était l'escalade. Et tout particulièrement dans les arbres. Il sautait d'un tronc à l'autre. Il apparaissait devant, derrière, en haut, en bas. Il était partout à la fois, volant littéralement de branche en branche. Parlons de l'aigle maintenant, qui, vous l'avez compris, dont la discipline favorite, c'est le vol plané. Et là, quand il déployait ses ailes et qu'il montait tout là-haut, décrivant des cercles majestueux, les autres s'arrêtaient pour l'admirer. Comment est-ce qu'il pouvait en être autrement? Comment on peut ne pas admirer cette facilité à glisser sur l'air, à tirer le meilleure partie du moindre souffle d'air, à prendre un virage serré sans se mettre en péril, d'orienter une ou deux, trois plumes des extrémités des ailes ou de la queue pour avoir une maîtrise parfaite des trajectoires. Majesté, facilité, c'est vraiment ce qui caractérisait cet animal et personne n'osait le contester sur ce terrain-là. Et enfin, le canard. Lui, c'était l'animal à tout faire. Course à pied, il sait faire. Pas très gracieux, je vous l'accorde. Mais bon, il tient ferme sur ses pattes. Voler, ça aussi, c'est faire également. Bon, quand il s'envole, c'est un peu laborieux, avec les ailes qui ont tendance à toucher l'eau. L'amérissage, les pattes en avant, on a l'impression qu'il risque sa vie à chaque fois. Et puis, en vol, chaque virage, on a un peu l'impression qu'il a la limite du décrochage. Hein, vous savez, pour aller droit devant, ça va pas mal, mais dans les virages, ça paraît un peu à la limite. Mais enfin, il vole. Et puis, peut-être la natation, c'est là qu'il se sent le mieux. En apparence, tout au moins, parce que, ouais, sérénité totale en surface, mais en dessous, ça s'agite. Des quatre animaux, il est le seul à maîtriser les trois éléments, la terre, les airs et l'eau. Et si on devait comparer leurs profils respectifs, on dirait que les trois premiers sont des spécialistes. Le lièvre est un spécialiste du terrain, particulièrement adapté à la course de vitesse. Et d'ailleurs, il a beaucoup sacrifié à cette caractéristique. Il a renoncé à d'autres choses, et notamment lorsqu'il atteint une certaine vitesse, il devient très compliqué pour lui de prendre des virages, il ne peut aller que droit devant. Et j'ai une petite histoire personnelle à vous raconter à ce sujet-là. Un jour, en vélo, je descendais d'une montagne, et tout à coup, au détour d'un virage, il y avait un lièvre au milieu de la route, là. Et c'était en descente, et je descendais assez vite, et il n'a rien pu faire d'autre que partir droit devant. Et puis, on était à l'entrée d'un village, tout de suite, là, et on a traversé le village... Le lièvre devant et moi derrière. Et celui-là, j'étais tout en longueur et je voyais bien qu'il essayait à droite, à gauche, mais il n'arrivait pas à faire ce geste qui lui permettrait de s'échapper. Et ça a duré plusieurs, je n'ose pas dire plusieurs centaines de mètres, mais quand même assez longtemps, jusqu'à ce qu'enfin, à la sortie du village, là, il y a un virage où là, il a continué tout droit. Et puis moi... J'étais un peu fasciné, j'ai failli suivre. Mais non, là, voilà, donc le lièvre, il a cette caractéristique-là de courir droit devant. L'écureuil, on l'a dit, c'est le spécialiste des terrains accidentés, des arbres en particulier. Sa légèreté, son agilité lui permettent de bondir d'un tronc à l'autre, de sauter d'une branche à l'autre. Et c'est vraiment un balai étourdissant qu'il peut faire dans les arbres. L'aigle, nous l'avons dit, c'est l'aisance dans le domaine aérien. Il fascine, il donne envie et rend parfois jaloux par la hauteur qu'il est capable de prendre au-dessus des conditions bassement terrestres de tous les autres. Même le canard, il l'envie quand il le voit voler. Quand il le voit évoluer avec autant de facilité, il l'envie. Et un jour, sur le marché, il a trouvé un costume d'aigle. Plume d'origine garantie. Et il a acheté, il a endossé ce costume et s'était lancé dans les airs. Quel bonheur, enfin, de ne plus avoir à battre des ailes comme un malade, de planer comme ça, de glisser sur l'air. Il se pavanait dans les airs au-dessus des autres en criant « Regardez-moi, regardez-moi !» Mais évidemment, les autres, ils n'étaient pas dupes. Ils voyaient bien quand même qu'il lui manquait un petit peu cette facilité naturelle pour évoluer dans les airs, et un jour sa femme lui dit « Écoute, moi j'ai épousé un canard. Alors, s'il te plaît, range tes plumes et redeviens mon petit canard. » Et voilà. Son profil est un peu différent des autres. On pourrait le qualifier de généraliste par opposition aux spécialistes que sont ses trois camarades. Vous savez ce que c'est qu'un spécialiste ? Et dans le domaine médical, c'est quelque chose que le XXe siècle a vraiment développé, cette notion, au point qu'on se demande si un beau jour on ne va pas avoir des spécialistes de la narine gauche. Quelqu'un a dit ceci, un spécialiste c'est quelqu'un qui sait de plus en plus de choses sur un domaine de plus en plus restreint, si bien qu'à la limite il finit par tout savoir sur rien. Et le généraliste, au contraire, c'est tout le contraire de cela. Et en ce sens, notre canard est un généraliste. Il sait un peu tout faire. Il a une vue globale des choses, il les considère dans leur ensemble. Cependant, il a quand même un talent. Mais ce talent est caché à la vue des autres. C'est un migrateur. Et ça signifie que, bien qu'il n'ait pas la facilité de l'aigle, la légèreté de l'écureuil, bien qu'il n'ait pas la rapidité du lièvre, il peut voler des jours et des jours sur des milliers de kilomètres. Et pour cela, il emmagasine des réserves de matières grasses qui lui fourniront de l'énergie tout au long du vol. C'est un anticipateur. Il voit de loin les défis auxquels il va être confronté, il s'y prépare. Et il est également animé d'une persévérance inégalable dans l'épreuve qui lui permet d'aller au bout de son voyage. Mais voilà, les autres ne le voient pas ainsi et ils se moquent de lui et de son côté pâteau. Alors, le prof de course à pied, il s'en est bien un peu rendu compte et il s'est pris d'affection pour lui. Des notes pareilles aux 100 mètres, c'est pas possible. Alors, gratuitement, tous les soirs, il s'est dit, il faut faire quelque chose. Gratuitement, tous les soirs, il lui donne des cours particuliers. Comment ne pas perdre de temps au départ, hein, l'élan de départ qui donne l'impulsion. L'équilibre sur les pattes, la souplesse du déroulé. La souplesse de la foulée, le déroulé du mouvement, la projection en avant au moment de passer la ligne. Et on ne peut pas dire, notre canard, il fait des progrès. Mais voilà, bientôt, à force de s'entraîner ainsi, la peau qui se trouve entre les palmes de ses pattes commence à s'user, à partir, pour disparaître totalement. Et ce qui commence à lui poser de sérieux problèmes à la natation, au grand dam du maître nageur, qui voit ainsi décliner son meilleur élément. Bien sûr, il a toujours la moyenne, mais ce n'est plus le canard qu'on a connu. Et ça, ça le désespère profondément. Quelqu'un a prié ce matin sur les dons, et c'est à cela que cette histoire peut nous faire réfléchir. Les aptitudes, et j'ai retenu trois mots, les aptitudes ou talents, que je mettrais dans la même catégorie, les dons et les qualités. Voilà quel va être le sujet de notre réflexion ce matin. Et volontairement, je n'aborderai pas ce qu'on appelle les dons spirituels parce que je ne désire pas ici les mettre en opposition avec les dons naturels. De même que les dons dits spirituels peuvent aussi bien servir des désirs charnels s'ils ne sont pas véritablement placés sous le contrôle de l'esprit. De même, les dons, tous les dons, deviennent spirituels dès lors qu'ils sont utilisés par le Seigneur et placés sous la direction de l'esprit. Tous ces animaux ont une ou plusieurs aptitudes. C'est ce qui relève de leur constitution physique. Le lièvre est né pour courir, vite, très vite. L'écureuil pour bondir, grimper, sauter, parfaitement adapté à son milieu. Les arbres, les ravins, les parois rocheuses. L'aigle pour voler, c'est incontestable, mais c'est tout. Lorsqu'il monte dans le ciel, tout le monde croit que, ouais, de là-haut, il plane, il est au-dessus des autres, mais il ne voit pas grand-chose de ce qui se passe sur le terrain. Eh bien, en exerçant son talent, le talent évident qu'il avait à voler majestueusement et de s'élever dans les airs, il s'est rendu compte qu'il disposait aussi d'un œil redoutable, un véritable télescope qu'il a dans l'œil, c'est ce que je rappelle, un téléobjectif, pardon, qu'il a dans l'œil, et qui lui permet de détecter le moindre mouvement du moindre rongeur qui se déplace au sol. Et il a découvert aussi un autre talent, qui est cette capacité à plonger comme une pierre, sans se mettre en péril, sans s'écraser lamentablement au sol. Mais aurait-il utilisé ces deux talents, ces deux derniers talents, s'il était resté volé prudemment près du sol? Les aurait-il seulement soupçonnés? L'aigle est l'exemple typique de celui qui a reçu cinq talents dans la parabole des talents. Il a été doté comme personne. Mais l'exercice et le perfectionnement de ces talents évidents en ont révélé d'autres. Le canard, lui aussi, a une aptitude. Il a un talent naturel pour constituer des réserves en vue de la migration. Cette phase préalable, au cours de laquelle il peut doubler son poids, il peut doubler son poids dans cette phase pendant laquelle il va constituer ses réserves, va durer un mois et demi. S'il n'a pas cette capacité à constituer ses réserves, c'est qu'en fait, on s'est trompé sur son état civil, ce n'est pas un canard. Un canard est fait comme ça. Mais ça ne suffit pas, parce qu'il a beau être un canard dans toute sa plénitude, il a beau avoir dans la tête des idées de voyage, des rivages magnifiques, des images de pays chauds, si un jour il ne se décide pas à prendre son envol, malgré le handicap de son poids, malgré le handicap de son vol laborieux, on en a parlé, mais malgré surtout l'image désastreuse que ses camarades de classe lui renvoient, jamais il ne découvrira les ressources insoupçonnées qu'il possède de courage et de persévérance. Un talent exercé en dévoile plusieurs autres qui ensemble s'harmonisent, ensemble forment tout, ensemble tendent vers un but. Eh bien, encore là, ça ne suffit pas. Parce que bien qu'étant un canard de par sa constitution physique, bien que maintenant décidé à prendre son envol et à prendre le risque de se lancer vers ces rivages merveilleux dont il rêve, il lui faut encore respecter un certain processus propre à son espèce et essentiel à la réussite de ses projets. S'il ne se ménage pas un temps à part où il accumule patiemment les réserves d'énergie en prévision du voyage, alors il ne franchira même pas les premières barrières de montagne. Qu'est-ce qui différencie un talent ou aptitude d'un don? J'ai fait quelques recherches dans le dictionnaire des synonymes, et synonyme de talent, synonyme d'aptitude, on trouve don. Mais lorsqu'on creuse un peu, il y a une petite notion, une petite différence qui se dégage. Et l'impression générale qui se dégage de la comparaison, c'est qu'une aptitude ne peut être qualifiée de don que lorsqu'elle est régulièrement utilisée et reconnue par les autres. C'est la pratique et la reconnaissance par les autres d'une aptitude qui fait qu'on peut la qualifier de don. Le don, c'est une aptitude qui a été mise au travail, qui a été exercée, perfectionnée, affûtée pour être toujours plus efficace et plus utile. Un don, ça se travaille. Également, et toujours selon cette définition, seul un autre que moi peut dire si vraiment j'ai un don de telle ou telle nature. J'imagine mal dire j'ai un don pour ceci, j'ai un don pour cela. On entend parfois dans les milieux chrétiens, on prend peut-être la précaution de dire Dieu m'a accordé tel don. Mais malgré tout, ça me rend un peu perplexe parce que dans l'idée du don, il y a quand même, dans le mot du don, il y a quand même l'idée d'une pratique officielle et reconnue. Ce qui fait que c'est quand même les autres qui sont mieux placés que moi pour en juger. Vous connaissez ce proverbe 27, verset 2, qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. Alors, peut-être que j'ai un don, j'espère, mais c'est mieux si c'est vous qui le dites. Je n'émettrai pas la même réserve pour les aptitudes. Il s'agit là d'un héritage sur lequel je n'ai aucune prise. Et il faut être lucide sur nous-mêmes, sur nos points forts, comme sur nos points faibles. Comme l'écrivait C.S. Lewis dans son livre « La tactique du diable », l'humilité ne consiste pas pour un homme intelligent à se croire stupide, ni pour une belle femme à se croire laide. Reconnaître nos aptitudes, de quel talent évident dont Dieu nous a dotés, c'est le point de départ essentiel à la reconnaissance d'un don. Notre Dieu, étant un Dieu d'harmonie, il a généralement disposé en nous des goûts, des attirances qui nous porte à nous intéresser plus particulièrement au sujet qui nous touche, au sujet qui touche de plus près à nos talents. Il y a généralement, dans ce qu'on aime faire ou dans ce qu'on est porté à faire, un indice de ce qu'on devrait se consacrer à faire. Et avec les goûts et les attirances, il y a un autre élément qui constituera la troisième partie de notre réflexion ce matin. On a parlé des aptitudes, on a parlé des dons, on a parlé des qualités. Qualité, qualifié, qualification. Un mot qui donne une indication sur un niveau de performance, et en l'occurrence, le niveau de performance de nos dons. Un évangéliste persévérant. Persévérance, qui est une qualité essentielle dans l'exercice du don de l'évangélisation. Un messager fidèle. Un intercesseur bienveillant. Et au-dessus de tout, l'exemple qui nous est donné, un sauveur merveilleux. Parce qu'il nous fallait, comme sauveur, rien de moins que le merveilleux, celui qui, par définition, par excellence, possède toutes les qualités en abondance. Les qualités sont les éléments qui vont qualifier, caractériser, même authentifier le don. Elles sont les compléments indispensables à l'exercice des dons. Et probablement, on en est sans doute un peu équipé, parallèlement, en même temps que nos aptitudes, mais surtout, ça se travaille. Et ce n'est pas une option, parce que j'y trouve un rapport très étroit avec le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà des qualités, entre autres. Toutes ces qualités sont importantes, et l'apôtre Paul nous dit, voilà, c'est le fruit de l'esprit, ce n'est pas une option importante à acquérir pour tout chrétien, mais certaines, plus encore, dans l'exercice d'un don. Nous allons prendre un passage dans Romains chapitre 12. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Ça, c'est très bien pour commencer. Commencer à parler sur les dons, ça nous rappelle le verset « Qu'un autre te loue et non ta bouche ». Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Les aptitudes. Nous sommes des membres, avec chacun une fonction particulière. Nous n'y pouvons rien, c'est notre héritage. Il nous faut avoir conscience d'appartenir au corps, mais également de quelles fonctions nous avons hérité pour la mettre en œuvre au sein du corps. Il y a des signes qui ne trompent pas. Ce qu'un membre est naturellement porté à faire, c'est aussi ce qu'il est appelé à faire et ce à quoi il est le plus utile. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation. Les dons. Je suis désolé, on n'a pas là-dedans de révélation fracassante. C'est même plutôt désarmant de simplicité. Que celui qui enseigne, enseigne. Que celui qui exhorte, exhorte. Que celui qui encourage, encourage. Que celui qui accueille, accueille. Que celui qui enseigne les enfants, enseigne les enfants. Tous les exemples qui sont cités, et la liste n'est pas limitative, impliquent une reconnaissance de la part des frères et de l'Église, prophétie, ministère, enseignement, exhortation. Et c'est cette reconnaissance qui fait qu'ils sont qualifiés de dons. Mais la liste n'est pas exhaustive. L'exercice du don, travailler notre don, nos dons, c'est notre plus grande responsabilité devant Dieu envers les talents qu'il nous a confiés. En travaillant avec nos dons, nous travaillons pour nos dons. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie, que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle, non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affection, dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Les qualités. On retrouve là-dedans bon nombre de ce qui fait le fruit de l'esprit. On y voit la patience, on y voit l'amour, on y voit le zèle, non, ça ne fait pas partie. De l'esprit.
Enfin, c'est si, mais.
C'est pas mentionné dans le texte de Galates 5, 22. Voilà. Tout ceci accompagne harmonieusement l'exercice du don et fait que il est transmis à ceux qui en bénéficient une bonne odeur de Christ. Et ça continue. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui pleurent, avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Et à la fin, en rebouclage au point de départ, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble, ne soyez point sages à vos propres yeux. De nouveau, un rappel, une mise en garde, et ce n'est pas étonnant que ce passage commence par un peu la même idée, ce par quoi il a commencé, c'est-à-dire ne pas avoir une opinion trop haute de nous-mêmes. Les aptitudes, les dons, les qualités, tout y est dans ce passage. Les aptitudes, ici, les dons, ici, et ici, les qualités. Les aptitudes dont nous disposons, on l'a dit, naturellement, en tant que membre du corps, ayant une fonction à y remplir. Les dons, qui sont la mise en œuvre de nos aptitudes et qui doivent être exercés, travaillés, perfectionnés, et deviennent des dons à part entière dès lors qu'ils sont reconnus. Et pour ces deux premiers points, ce passage-là, on en trouve un parallèle presque identique, mais un peu plus développé, dans 1 Corinthiens 12, vous le regarderez chez vous si vous voulez, avec cette comparaison corps, membre, fonction, et église, aptitude, don, un parallèle évident. Et puis le troisième point, les qualités qu'il nous faut acquérir et développer dans l'exercice des dons, et travailler également pour que les dons portent du fruit et soient authentifiés comme venant du Seigneur. Avant de nous quitter, je vous suggère une application immédiate, enfin avant de nous quitter, donc que je descende de cette chaire parce que le culte n'est pas encore terminé. Une application immédiate qu'on peut commencer tout de suite, en tout cas dès cet après-midi, identifier en nous une aptitude, un talent. S'aider pour cela de nos goûts, de nos aspirations, de nos désirs. Rechercher une ou deux ou trois qualités, peut-être dans la liste du fruit de l'esprit, mais pas seulement, qui s'harmonisent bien avec ce talent. Et puis commencer à l'exercer patiemment, à le travailler, lui et les qualités associées. Persévérer ainsi jour après jour. Si nécessaire, étudier la question plus en détail, se renseigner auprès de personnes reconnues dans ce service, suivre une formation. Toujours vérifier que le désir est là, surtout le désir de progresser. Je pense. En disant ça, je pense vraiment aux jeunes, mais pas seulement, parce qu'il n'y a pas d'âge pour se découvrir une aptitude. Mais oui, les jeunes qui sont en train de construire leur vie et les préados qui sont parmi nous aussi aujourd'hui, c'est un bon exercice pour envisager ce que le Seigneur attend de vous. Persévérer, ne pas se décourager face aux difficultés, mais ne pas s'entêter contre toute évidence, au risque d'y laisser des palmes. Le psaume 131, verset 1, dit ceci: Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards trop hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Un don à notre portée, un don sur mesure, voilà ce que nous sommes invités à exercer. L'important n'est pas dans le devenir. Paul dit à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste, et non pas deviens un évangéliste. Non, il lui dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. L'important n'est pas dans un titre, mais dans l'accomplissement d'un service et dans le progrès, dans nos progrès dans ce service. Parce que si c'est le titre que nous visons, qu'est-ce que nous pourrons attendre de plus une fois que nous l'aurons obtenu ? Commençons dès maintenant, là où nous sommes, quelle que soit notre place dans l'Église, quel que soit notre âge, quel que soit le groupe que nous fréquentons, quelle que soit notre responsabilité, exprimons les talents que le Seigneur nous a confiés. Mettons-les en œuvre aujourd'hui pour qu'ils deviennent les dons auxquels nous aspirons pour le servir. Amen.